Donc, pour ce soir, on va continuer dans la deuxième épître de Pierre. On avait fait l'introduction. Je vous rappelle juste le thème un peu central de cette épître, c'est la vérité fidèle en opposition au faux docteur. Et puis, donc, cette lettre a été écrite peu de temps avant que Néron exécute en fait Pierre, hein, certainement. Donc on est à l'époque entre 66 et 68 après Jésus-Christ.
Juste une petite chose par
Oui.
rapport à Néron, j'ai vu aussi une chose là-dessus, j'ai lu là dans la Bible, dans une autre Bible, que en fait il a pas mal débuté Néron. C'est vrai qu'il avait des conseillers dans Eusèbe. C'est quelqu'un qui était dans le Sénat, etc. Et d'autres qui étaient de bons conseils pour lui. Mais il y en a un qui est mort et les autres qui sont partis, etc. Et à partir de là, il a complètement disjoncté. Il a tué sa mère, fait assassiner sa mère, tous les gens qui étaient autour de lui. Et il semblerait que c'est lui qui aurait mis le feu à une partie
Ouais, c'est ce
de
qu'on dit, hein.
Rome, pour reconstruire un palais pour lui qui serait beaucoup mieux. Puis c'est juste où il y a eu où ça a brûlé, c'est justement exactement l'endroit où il voulait faire son nouveau palais. Alors il fallait
Un
trouver
coupable.
des coupables, alors il a trouvé des chrétiens.
Bon, c'est
Et
technique
c'est là que
qu'on
c'est
dit
parti.
vieux comme Hérode, hein, parce qu'aujourd'hui on peut aussi, ben voilà, hein, on parlait d'un espion américain qui, alors qu'il était un simple pasteur. C'est un peu la même chose, hein, on vient
Bouc
accuser des
émissaire.
gens, ouais, c'est un bouc
Il fallait
émissaire, puis
trouver le bouc émissaire.
ça sert une cause qui est bien au-delà de la vie de la personne, quoi. Alors, on avait donc fait les salutations et puis ensuite, on va lire les versets, on pourrait lire les versets 3 jusqu'où on va lire. On va déjà lire jusqu'au verset 12. Et puis, après, on verra jusqu'où on peut aller. Ah non, je m'excuse, je suis donneur un pied à faire le parler. Alors, on va lire donc à partir quand même du verset 3. On peut même juste lire un petit peu avant. Là, je vous lis la deuxième partie du verset 2. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi je vous lis ça? Parce que en fait, c'est vraiment un des thèmes centraux. Avec l'enseignement de Pierre contre les faux docteurs, hein. Alors il met en opposition justement la connaissance véritable, hein. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis on verra dans les versets qui vont suivre comment on peut croître dans la connaissance de Dieu et s'assurer que notre connaissance est véritable, est fondée sur du solide. Hein, pas juste sur une belle petite histoire, un conte de Noël ou que sais-je. Et puis c'est pour ça que je vous ai marqué là des sous-chapitres où on voit un petit peu la structure de ce premier chapitre. Bon, il y a simplement le point 1, c'est les salutations. Hein, j'ai pas remis, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc 2, éloge la connaissance véritable. Et puis on voit un petit peu ce point 2 comme il est mis avec des sous-chapitres. Hein. 2.1.7, on est donc dans le thème de la connaissance véritable, mais c'est un sous-chapitre. La puissance transformatrice de la connaissance véritable. Ensuite, un autre sous-chapitre, toujours en lien avec la connaissance véritable. Caractère progressif de la croissance chrétienne, hein, c'est progressivement qu'on va connaître de mieux en mieux cette Dieu véritablement. Attestation 2.3, attestation de la parole de la vérité par l'apôtre. Il nous indique un sous-chapitre, son motif, hein, pourquoi il a à cœur que les chrétiens puissent avoir accès à cette connaissance véritable. Et puis, sur quoi l'apôtre s'appuie.
Bonjour.
Hello.
Bonjour.
Sur quoi l'apôtre s'appuie pour son enseignement, hein. Donc on voit un petit peu ici sa méthodologie. Donc ceux qui disent que 2 Pierre, c'est peut-être pas lui qui l'a écrit, et puis que, ou bien il critique Pierre.
Il
y en a une, là.
Je vois rien du tout.
Ah, elle était cachée, la place. Alors, les personnes qui disent que Pierre a une théologie un peu légère, entre guillemets, ben on voit que quand même, rien que par rapport à ce premier chapitre de la deuxième épître de Pierre, elle est structurée quand même d'une façon très, très intellectuelle. Hein. C'est pas comme ça, juste deux, trois pensées qui s'attachent l'une à l'autre. Mais il y a vraiment une structure qui est bien précise dans ce chapitre. Donc, étonnant, hein, de la part d'un simple pêcheur. Mais voilà, il est à la fin de sa vie. Et puis, il a certainement sa connaissance qui a grandi aussi au travers de toutes ces années. Et puis, ce qu'il transmet là, ben, c'est quand même du solide.
Maintenant, le style, il semblerait que le style ressemble à l'épître de Jude. Oui. Le style de l'écriture. Mm-hmm. Mais il y en a qui disent aussi qu'il aurait été aidé pour écrire, par exemple, Sylvain.
C'est possible, oui.
C'est toutes des suppositions, bon, oui. Peu importe. Mais...
Alors, c'est indiqué justement que la première épître, c'est le cas. Et puis, alors, moi, je veux dire, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour vous dire ça, alors, avec certitude par rapport au grec. Mais ceux qui sont baignés dans le grec, je pense qu'ils voient la différence de style entre la première épître et la deuxième épître. Et puis, Sylvain était vraiment un bon scribe. Et puis, a aidé à la participation de 1 Pierre. Donc, il paraît qu'il y a une différence stylistique notable entre 1 Pierre et 2 Pierre. Moi, je peux que croire. Quelque part, je ne peux pas vous l'attester parce que moi, je ne lis pas le grec comme ça couramment, quoi. Donc voilà, mais bon, il y a peu de personnes. Oui, il y a voilà, les gens qui ont étudié la théologie, puis après qui gardent un nez dans les langues mortes, ils vont arriver à le faire. Ceux qui restent dans l'enseignement, en gros.
Quelle importance.
Hein?
On a l'enseignement de la parole, puis on
oui,
fait
oui,
confiance.
Oui. Non, non, mais pour dire que. Pour dire qu'il y a des gens qui sont érudits là-dedans.
Oui.
Et puis, ben, merci Seigneur, parce que c'est aussi un enrichissement. Mais moi, je peux que faire confiance aux théologiens qui ont étudié ces textes. Quoi. Puis bon, on s'engage pas dans grand chose, hein, parce qu'après, les théologiens, ils vont toujours discuter d'un point, d'un autre. Après, c'est des débats qui des fois, n'en finissent plus. Hein. J'ai rien contre les théologiens, mais voilà. Des fois, c'est bien de revenir simplement aux Écritures. Alors, donc on peut lire les versets 3 jusqu'à 11 déjà.
Pour que ça aille plus vite, est-ce que ça pas une seule personne qui
on peut aussi
qui le lise, qui c'est qui veut lire déjà. Alors je lis. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale de la qualité morale, la connaissance, et à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, à la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Jusque-là ?
Encore 2 versets. Bon,
ouais. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.
Merci. Alors, on est toujours donc, on a toujours la possibilité hein, de débattre aussi, hein, bien sûr, si vous avez des choses à partager, c'est volontiers. Et puis, ben, déjà, je lancerai un petit peu quand même la suite par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Donc, le premier point, juste vu qu'on a lu la fin de 1 Pierre 2, hein, par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. On n'est pas appelé à connaître n'importe qui, mais Dieu lui-même ainsi que son Fils. C'est pourquoi il vaut la peine de prendre du temps et de s'assurer que notre connaissance soit fondée sur Dieu et non sur une pensée humaine. Hein? Si on veut connaître un sujet ou un autre, des fois on va déjà à la meilleure source possible. Je ne sais pas si vous voulez connaître comment faire un plat typique d'une région ou d'une autre, vous allez vous renseigner chez quelqu'un peut-être qui vient de cette région. Après, si vous voulez avoir une connaissance dans l'informatique, peut-être vous n'allez pas frapper à la porte d'une personne âgée, mais plutôt d'un jeune qui en sait déjà plus que ceux qui sortent de l'université. Vous voyez, hein, il y en a des jeunes, ils sont terribles dans l'informatique. Hein. Il y en a à 15 ans, ils arrivent à rentrer dans les systèmes de sécurité américains même. Hein. Donc voilà, ils sont doués. Donc ici, on n'est pas en train de se poser des questions pour n'importe quelle connaissance, mais pour la connaissance véritable de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va chercher à fonder son enseignement sur du solide, de façon à ce que ceux qui vont lire cette lettre, hein, les premiers chrétiens primitifs là, mais nous aussi aujourd'hui, on puisse avoir un héritage solide que Pierre nous a transmis. Et c'est pourquoi il nous explique un petit peu sa méthodologie, hein, comme on l'a vu. Vu qu'on a lu les titres et les sous-titres de ce chapitre, voir que cette connaissance, on peut s'appuyer parce qu'on a accès à une connaissance qui est véritable. Il y a une connaissance qui est progressive. Il y a une attestation prophétique. On le verra, on l'a pas lu, hein, mais ça c'est dans la suite du chapitre de la parole de l'enseignement de l'apôtre. Et voilà. Donc, le premier point qui nous assure que nous avons bel et bien accès à une connaissance de Dieu qui est juste, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, un point qui nous assure que nous sommes bel et bien en train de grandir dans notre connaissance par rapport à Dieu, c'est que sa puissance agit en nous et qu'elle nous transforme. La puissance de Dieu nous a déjà tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété, hein, à la crainte du Seigneur et à cette vie renouvelée en Jésus-Christ. On a déjà tout reçu, mais ce n'est pas simplement un enseignement comme ça qu'on va recevoir, c'est vraiment la puissance de Dieu qui va faire son œuvre dans nos vies. Et cette puissance-là, quelque part, vient attester hein, que nous sommes enfants de Dieu. Cette puissance transformatrice, ce n'est pas juste une puissance qui vient nous chatouiller comme ça à guili-guili, mais c'est une puissance qui transforme nos vies, qui va transformer nos caractères, qui va transformer notre façon de penser, notre regard sur le monde. Vous serez, je pense, d'accord. Hein? Un chrétien voit le monde quand même d'une manière différente que celui qui n'a pas la foi en Dieu. Hein? On peut débattre sur certains sujets. Ben vous verrez vite que quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu aura une pensée vraiment différente de celui qui croit en Dieu. Donc, c'est la preuve que cette connaissance, elle est basée sur le Seigneur. Parce qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit. C'est bien par l'œuvre du Saint-Esprit. Déjà, simplement le point de départ, celui qui arrive à la repentance et celui qui arrive à croire dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà que l'Esprit Saint a fait son œuvre dans sa vie. Hein. Il y a déjà un parcours qui s'est fait par la puissance du Seigneur. Donc, c'est en Jésus-Christ que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie chrétienne sincère dans la foi et la crainte de Dieu. Plus nous connaîtrons Jésus, plus nous serons à son image. Plus nous abandonnons notre vie entre les mains du Seigneur, plus sa vie se manifestera en nous et nous donnera de marcher dans le respect de sa personne. Et cela, en effet, ne vient pas de nous, de nos mérites, de nos recherches. Non, car c'est le Seigneur qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre dans nos vies et c'est l'œuvre de la croix. Ça, je pense que voilà, on est assez clair sur ces choses-là. C'est pas nos efforts. C'est Jésus qui est vertueux, qui pense et agit d'une manière sainte et modeste. Et c'est lui encore qui nous donne de connaître sa pensée et son action pour nos vies. C'est Jésus qui est le centre, de notre compréhension, qui est le centre de notre transformation aussi au niveau de notre caractère. Et voilà, on peut pas se justifier devant Dieu par nos œuvres. Mais ça va même plus loin que ça, parce que cet esprit-là, l'esprit du Seigneur, est à l'œuvre dans nos vies. Non seulement on était rachetés et justifiés, mais aujourd'hui déjà, on est transformés par sa grâce. C'est quelque chose d'extraordinaire de dire, oui, voilà, c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, je me définis comme chrétien. Et puis qu'aujourd'hui, je peux marcher en nouveauté de vie. Je n'ai pas besoin d'attendre le ciel pour marcher en nouveauté de vie. C'est quelque chose que je peux recevoir de la part du Seigneur déjà aujourd'hui. Donc, ça vient bien attester que la connaissance que nous avons de Dieu est du Seigneur. Simplement, pourquoi ? Parce que ça transforme nos vies. Si on a une connaissance qui est en dehors de Dieu, ça ne change rien. Ça va amener ce qu'on appelle le légalisme. C'est des lois où l'homme va essayer par lui-même, alors qu'on est appelé à recevoir l'œuvre du Saint-Esprit, cette œuvre de transformation de nos cœurs, et que c'est par cette œuvre-là que petit à petit, on est amené à la ressemblance et à la gloire du Seigneur. Alors, verset 4, après on pourra discuter un moment. Lesquels nous assurent, donc les vertus de Dieu, sa gloire en nous, de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, nous avons reçu par Dieu les plus grandes et précieuses promesses. Et c'est par ces plus grandes et plus précieuses promesses que nous allons pouvoir fuir les convoitises du monde et que nous allons pouvoir devenir participants de la nature divine. Si on n'a pas compris les promesses de Dieu pour nos vies, ce à quoi l'homme est appelé, eh bien ça va être difficile de fuir ce monde, parce que ce monde va peut-être nous rattraper avec ses convoitises. Et ça va être difficile d'être conduit à nous rapprocher de la nature divine. On est appelé à devenir participant de la nature divine, mais il faut comprendre les promesses précieuses que Dieu a pour nos vies. Et une des promesses précieuses, c'est la vie éternelle. C'est vrai qu'il y a des chrétiens, malheureusement, ça existe, qui ne croient pas en la résurrection. Franchement, moi, des tels chrétiens, je me dis que ça doit être difficile de chercher la sanctification. Parce que tu cherches ou pas la sanctification, de toute façon, c'est la mort après. Alors, pourquoi chercher la sanctification, quelque part, si tu ne crois pas en la résurrection, C'est difficile de dire, je vais chercher la sanctification dans le Seigneur, mais de toute façon, au bout, je vais mourir, donc il n'y aura plus rien, donc je ne sais pas, est-ce que vraiment j'ai besoin de changer de comportement, est-ce que j'ai besoin de changer mon caractère, de toute façon, au final, c'est la mort. Il existe des chrétiens comme ça, bizarre. Mais un autre point aujourd'hui aussi par rapport aux promesses de Dieu, c'est pas seulement la vie éternelle, mais c'est aussi son royaume. Jésus a dit « N'ayez crainte, petit troupeau, parce que le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Un jour on va hériter du royaume, un jour on va régner, ceux qui demeureront fidèles au Seigneur, on peut lire des passages dans l'Apocalypse de Jean, ils régneront avec le Seigneur sur la terre, il est écrit. Il y a plusieurs attestations comme ça aussi de la part de l'apôtre Paul. Et ce qu'on appelle le millénium, et c'est une promesse aujourd'hui de manière un petit peu assez surprenante. C'est des fois une promesse aujourd'hui qui est peu enseignée dans les églises, même les églises évangéliques. Hein, et puis le royaume, des fois, on en parle peu. Et puis c'est dommage parce qu'il y a des promesses tellement extraordinaires. Et si quelqu'un ne croit pas au royaume de Dieu qui un jour va se manifester sur cette terre, alors quand il lit des textes qui parlent de cela dans la Bible, soit il va se dire, ah ben voilà un beau texte dans un joli style littéraire poétique, et puis il va se dire, ben voilà, ça nous parle du ciel, mais il ne va pas comprendre, saisir qu'il y a quelque chose un jour que Dieu désire vivre avec lui, qu'un jour Jésus-Christ va revenir et va régner sur cette terre, parce qu'un jour Jésus sera roi sur cette terre. Demande-moi, hein, je te donnerai pour héritage les nations de la terre. Hein, psaume 2, sauf erreur. Voilà, Jésus n'a pas encore eu cet héritage. À l'heure actuelle, c'est encore le diable qui règne sur les nations. Hein. Mais bientôt, il sera lié. Amen. Ou alors, s'il n'a pas cette notion du royaume de Dieu, il peut penser que ces prophéties qui parlent de ce règne, parce qu'on a des prophéties autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, hein, qui parlent du règne de Dieu sur cette terre. Chez Ésaïe, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, quand il est parlé du lion de Juda, le lion de la tribu de Juda, on est dans un enseignement en fait qui nous parle de ce règne de Dieu à venir sur cette terre. Et puis on se rappelle juste comme ça, hein, c'est aussi pour cette raison que les Juifs à l'époque du Seigneur, que certains Juifs ont refusé le Messie parce qu'ils voulaient un Messie en gloire. Ils voulaient tout de suite le lion de Juda, ils ne voulaient pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché sur la terre. Hein. Je vous ai déjà un petit peu partagé de ces choses-là. Mais pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'il nous est parlé des promesses de Dieu, les plus précieuses que le Seigneur nous donne. Et si on ne comprend pas et on ne saisit pas la beauté de ces promesses, eh ben, il y a une part en nous qui va manquer d'espérance quand même quelque part. Et puis, il y a une part en nous peut-être qui peut même, par rapport à la connaissance qu'on peut avoir de Dieu, qui peut être tronquée. Hein? Pourquoi? Parce que, par exemple, si quelqu'un ne saisit pas qu'il y a un royaume de Dieu qui est à venir, il va pouvoir croire que peut-être c'est à l'église d'entrer dans ce royaume-là. Et aujourd'hui, ça existe. Hein, y a des églises qui croient que par leurs efforts, par la prière, par une vie super spirituelle, surnaturelle, par une implication dans la politique, une implication dans le social, dans l'économie, que voilà, on va transformer cette planète et que l'Église va régner. Hein. Ça a été toute une tentation quand même de l'Église durant 2000 ans, c'était le règne. Hein. L'Église catholique a souvent cherché le règne. Et des fois, il reste des méandres de ça encore dans sa théologie actuelle. Mais il y a aussi même des évangéliques qui aujourd'hui croient que l'Église est appelée à régner, hein, et puis à rentrer aux forces de son bras dans ce règne-là. C'est ce qui s'appelle, c'est un courant qu'on appelle post-millénariste, hein, vous avez peut-être déjà entendu cette terminologie, c'est-à-dire que Jésus revient, postérieur, il revient après le règne des mille ans. Hein. C'est l'Église qui introduit le règne des mille ans, parce que voilà, elle se consacre, et puis elle entre dans son appel, soi-disant, et puis que voilà, le règne de Dieu va se manifester sur cette terre,
et que,
voilà, et puis qu'ensuite Jésus-Christ va revenir.
Ouais, moi je reviens sur le texte, quand il est dit, pour cette même raison, faites tous vos efforts. Tu parlais d'efforts, on doit faire des efforts, justement, dans ce contexte-là. Donc, ces fruits donc, de connaissance, d'amitié, d'amour, etc., ne sont pas automatiques. Ils nous demandent à faire un effort soutenu. Ils ne sont pas non plus facultatifs, car ils doivent tous faire partie intégrante de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'en finir avec l'un d'eux avant de travailler le suivant, mais de les rechercher tous à la fois. Dieu nous donne force et capacité, mais il nous donne aussi la responsabilité d'apprendre et de progresser. Parce que dans ce texte-là, on est vraiment dans la progression de la connaissance de Dieu. Voilà.
Oui, oui, on va les développer un petit peu. Il y avait aussi notre frère Joseph, peut-être vous rappeler, il les avait développés ici hein, aussi, hein, plus en détail que ce qu'on va voir là. En effet, hein, c'est une connaissance qui n'est pas désincarnée, mais qui se vit au quotidien et qui se vit dans nos vies. Hein, ce n'est pas juste une connaissance comme ça intellectuelle.
La foi n'est pas une simple croyance, elle va susciter une action.
Voilà. Ce n'est pas une philosophie non plus. Hein, c'est vraiment quelque chose qui transforme nos vies par la puissance du Saint-Esprit comme on l'a vu. Hein. Mais moi, je me permettais de faire un petit peu d'appui, un petit peu par rapport aux promesses, parce qu'aujourd'hui, je vois vraiment des faux enseignements qui courent dans certaines églises.
Là, tu vas un peu vite, parce qu'on va en parler dans le chapitre 2.
Alors, on va venir sur les faux docteurs.
Les faux docteurs, hein, le gnosticisme et compagnie.
Oui. Mais j'appuie là-dessus. Pourquoi? Par rapport aux promesses, simplement. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir de la confusion dans certaines églises parce que les chrétiens n'ont pas compris les promesses. N'ont pas compris simplement les temps dans lesquels ces promesses vont s'accomplir. Hein.
Mais là, tu reviens en arrière, il me semble bien, non?
Non, je suis toujours sur le même verset, verset 4, hein, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses-là, parce que vous avez saisi ces promesses-là, je rajoute, hein, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Hein. Mm-hmm. C'est parce qu'on a saisi les promesses de Dieu qui sont sur nos vies, hein, que je vous disais, celui qui n'a pas saisi la résurrection, ça va être difficile quand même quelque part peut-être de passer par un chemin de sanctification. Mais si nous, on sait qu'on est appelé à la vie éternelle, ça nous met la crainte de Dieu, parce qu'on sait que si on se comporte n'importe comment, ben, la vie éternelle, on a quand même le danger de passer à côté. Hein. Et les promesses de Dieu aussi par rapport au royaume, c'est la même chose. Il y a beaucoup de textes, on ne va pas du tout aller là-dedans, hein, mais c'est simplement pour avoir un petit peu cette pensée-là. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, qui nous parlent du règne de Dieu sur la terre. Et qu'aujourd'hui, des fois, les chrétiens, même des grands pasteurs, hein, ils vont prendre ces textes, puis ils vont vous les balancer comme si c'était pour aujourd'hui. Et puis ça peut mettre la confusion dans la tête des gens. Parce qu'ils vont croire que justement, ils sont appelés à régner. Ou bien ils vont prendre des textes aussi par rapport à Israël. Et puis ils vont dire, voilà, c'est pour aujourd'hui. Alors qu'une des règles quand même qu'on a dans l'interprétation des textes bibliques, c'est de ne pas sortir un verset de son contexte. Et de regarder un petit peu le contexte, mais tiens, cette prophétie, elle nous parle de quoi? Elle nous parle pour quel temps? Est-ce qu'elle nous parle pour l'Église d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le temps de la grâce. Hein, ça, on l'avait vu un petit peu avec le cours du baptême. Et puis, un jour, il y aura un temps nouveau où Jésus régnera sur cette terre. Ce sera un temps nouveau. Le temps de la grâce sera terminé. Ce sera le temps du règne de Dieu sur cette terre. Hein.
Auquel
les chrétiens participeront, ouais. Mais si on n'a pas compris quelque part ces étapes, et puis après viendra les nouveaux cieux et la nouvelle terre, hein, que le Seigneur construira, parce que cette terre, elle passera par le feu, elle sera détruite, hein, à la fin du règne de Jésus sur cette terre. Alors, si le chrétien n'a pas compris un petit peu ces étapes, des fois, il ira peut-être dans une église où on va dire, mais le chrétien, maintenant, tu dois régner. Donc, vas-y, entreprends. Dieu te bénit dans tout ce que tu vas faire parce que tu vas être une personne influente dans ta zone, dans ton travail. Hein. Le Seigneur va bénir tes finances, il va ouvrir les portes des banques, blablabla. Je ne sais pas, je donne un exemple comme ça. Hein. Et puis, la personne, c'est bon, elle se lance parce que, ah oui, mais oui, Jésus règne, on y va au combat et Dieu va manifester sa gloire dans ma vie. Et puis tout d'un coup, il va peut-être se retrouver face à un mur. Et puis il va se dire, mais c'est quoi ce Dieu en qui j'ai cru, hein?
Mais tu dis ça par rapport à un courant qui est actuellement dans la chrétienté.
Alors, il y a un tel courant aujourd'hui, ouais. Oui.
Et qui touche aussi les évangéliques.
Qui touche aussi, oui, les évangéliques, oui.
Mmh. Ouais, ça, ils ont de l'or qui vient dans les mains, ils ont tant de choses. Ouais, c'est connu. Si t'as pas,
mais
ça,
c'est
t'as pas
la prospérité, c'est pas le truc de la prospérité.
Oh, c'est tout mélange.
Ça s'y rapproche aussi, ouais, quelque part.
C'est un mélange.
Si tu n'as pas cette fortune, si t'as pas ça, t'as pas la foi, quoi. Comme les qui disait, si tu parles pas en langue, tu n'es pas, t'es pas né de nouveau.
Ouais, ouais, ouais.
Tout des trucs comme ça, ça existe, hein, il faut pas... Ouais, ouais. Il faut faire attention.
J'avais pensé dans les promesses. Il y a aussi beaucoup d'autres promesses dans la parole. Par exemple, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je trouve que c'est aussi une promesse magnifique.
Pour nous aujourd'hui,
il y a toutes ces promesses pratiques.
Amen. Ouais. 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 La promesse d'envoi du Saint-Esprit, hein, pour nous aujourd'hui. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Hein. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est. On n'est pas là passif en attendant les choses futures. Non, parce qu'on est appelé à être participant dès aujourd'hui, comme il est dit au verset 4, de la nature divine. Donc, il y a cette présence de Dieu en nous et qui va nous aider à marcher, voilà, à aller de l'avant pour la gloire du Seigneur. Donc, le point suivant, les versets donc 5 à 11, qui nous parlent de la croissance progressive en tant que chrétien, on voit que l'apôtre Pierre a le souci de ce que notre foi soit incarnée, hein, dans la vie de tous les jours. Hein. Verset 5, à cause de cela, à cause de ce que Dieu fait en nous, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Hein, ça démarre bien là. Ça démarre avec la foi. La première chose, c'est avoir la foi. Et puis, ben, c'est pas si simple que ça, parce que on peut se dire, est-ce que chaque jour j'ai une foi à 100% dans le Seigneur? On a tous connu des coups de mou, comme on dit, hein, où tout d'un coup, un jour, on a la foi vraiment. On pourrait exhorter voilà, hein, monter l'Everest sans oxygène, et puis le lendemain, la première marche d'escalier, on s'essouffle déjà. Donc voilà, bon, après ça ne veut pas dire qu'on va passer toute notre vie comme ça dans des creux et des hauts, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais déjà avoir la foi, c'est pas tout simple, avoir cette foi, garder cette confiance dans le Seigneur, et c'est le point de départ pour notre vie de chrétien, garder cette confiance dans le Seigneur, et puis Dieu va la renouveler aussi en nous, et puis elle va nous aider à avancer. Et le point suivant, il y a quand même un peu une quelque part une progression, hein. La foi va nous amener à la vertu. La vertu, c'est, on pourrait traduire autrement, c'est la crainte et le respect dû envers Dieu. Une personne, on dit d'une personne vertueuse, pardon, qu'elle a une bonne morale. Hein, quelqu'un qui est vertueux, c'est quelqu'un qui a une bonne morale.
On parle de qualité morale dans voilà. Certaines traductions comme
ouais.
Ça.
Ouais. Autant une personne vertueuse, c'est quelqu'un qui a une bonne morale, autant dans ses paroles que dans ses actes. Hein. Quand on dit quelqu'un qui est vertueux, c'est pas simplement qui a un beau discours, mais c'est aussi c'est une personne qui, dans son caractère, a une bonne morale. Donc, avoir de la vertu, c'est penser et agir selon Dieu. Le point suivant, c'est la science, ou la connaissance de ce qu'est la vie chrétienne. Hein, ajouter donc à la vertu la science. On est appelé à grandir dans notre connaissance d'enfant de Dieu, de notre connaissance du Seigneur, de ce qu'il attend de nous, de sa pensée, de son vouloir, de sa compréhension de l'Église, et de la compréhension de sa parole aussi. On est appelé à grandir dans la sagesse, dans une sagesse qui vient du Seigneur, et d'avoir une intelligence renouvelée dans le Seigneur. Donc cette connaissance qui va grandir en nous, cette connaissance de Dieu, c'est vrai que c'est précieux quand on peut prendre du temps pour se recentrer sur le Seigneur aussi dans la prière et dans la lecture de la parole. Cette connaissance de Dieu va nous conduire aussi dans une attitude de tempérance, et c'est vrai que c'est pas un mot qui est forcément très à la mode dans notre société actuelle, hein, la tempérance, hein, c'est cette capacité à être maître de soi-même, d'avoir de la modestie et de la retenue. Je ne sais pas, Pierre, toi, c'était traduit autrement que tempérance.
Ouais, non,
c'était
maîtrise traduit. De soi.
Maîtrise de soi, voilà. De soi, ouais. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque part un fruit de l'esprit. Hein. Et puis c'est bel et bien la preuve que cette connaissance-là, elle est basée sur le Seigneur, parce que notre caractère aussi, notre attitude change. Le point suivant, c'est la patience. Alors, hein, toi, t'avais le dicton actuel pour ce
soir. Non, rien dit.
La persévérance. La persévérance après.
Alors, justement, la patience est... là, il n'y a pas la persévérance dans la liste. Mais la patience, quelque part, en effet, est étroitement liée à la persévérance. Hein. Pour être patient, il faut être persévérant. Et puis, quand on est persévérant, c'est preuve qu'on est patient. Donc, c'est vrai que c'est étroitement lié. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, hein, voilà, hein, se persévère jusqu'à la fin, hein, et puis tu recevras la couronne de la vie. Hein. Voilà, hein, c'est vrai que croire dans le Seigneur, c'est pas juste une émotion d'un soir, mais c'est quelque chose qui doit se construire aussi dans le temps. La vertu suivante, la qualité suivante, c'est la piété. Et là, la piété, c'est aussi une notion de respect, de crainte envers Dieu. On voyait, c'était quoi qu'on avait vu là? La vertu, hein, simplement, ouais, au début de la liste. Hein, qui était donc située avant la science. Donc là, ici, la piété... c'est aussi cette notion de crainte et de respect dans le Seigneur, qui est liée aussi, parce que si on regarde dans le grec, ce terme-là est aussi lié avec une notion de fidélité. Hein. Et puis, c'est déjà le sixième point des qualités dans lesquelles on est appelé à grandir en tant que chrétien. Et ce n'est pas pour rien que ça se trouve un peu là, déjà un peu en fin de liste, la fidélité. Il y a une notion donc, de crainte de Dieu, mais aussi de fidélité. C'est quelque chose... C'est vrai qu'avec le temps, je pense, hein, par la grâce du Seigneur, on est plus fidèle. On lui est plus fidèle. Que face à une épreuve, on va peut-être réagir différemment que si on est peut-être jeune converti. Ça ne veut pas dire que c'est une règle. Mais des fois, quand même, avec le temps, on va acquérir une sagesse, une confiance dans le Seigneur, un regard qui sera inébranlable, alors que peut-être en étant jeune dans la foi, ça veut, on fait pas, quand je dis ça, hein, je suis pas en train de comparer un jeune converti à un qui aurait de nombreuses années, et devant le Seigneur, on a tous la même valeur, hein. Mais c'est clair que l'expérience, peut quand même amener à certaines qualités qui vont se développer chez le croyant. Et puis après, on finit, après toutes ces qualités, par deux points qui, quelque part, viennent nouer le tout. L'amour fraternel, parce que notre connaissance dans le Seigneur doit aussi se manifester dans nos relations avec nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas une simple connaissance comme ça de Dieu, mais c'est quelque chose qui va nous rendre participants à la nature divine. Et si nous sommes rendus participants à la nature divine, alors nos cœurs vont être aussi remplis de l'amour de Dieu pour nos frères et nos sœurs. Et puis, la dernière qualité, qui est l'amour, hein, l'agapé ici, donc l'amour de Dieu. Et puis, c'est remplir le premier commandement, qui est d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est cet amour-là dans le Seigneur qui vient parachever notre connaissance de Dieu. Et si nous n'avons pas l'amour du Seigneur avec toute cette connaissance qui a grandi en nous, c'est la preuve que quelque part, notre connaissance n'est pas fondée sur Dieu. Hein. si je suis bradé de grands diplômes des plus grandes universités de théologie et compagnie, si je n'ai pas l'amour de Dieu, ben, y a un souci. Hein. C'est que ma connaissance, quelque part, à un moment donné, elle a dévié de son but. Paul dira en 1 Corinthiens 13, verset 2, vous savez, je ne suis rien. Ouais. Voilà, c'est ça un verset qui est connu. Hein. Et on l'entend souvent dans le cadre des mariages. Mais bon, il n'avait pas écrit dans ce but-là, notre ami Paul. Hein. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, caramba, c'est qu'il me manque quand même quelque chose. Et puis que ma connaissance, elle n'est pas véritablement fondée sur le Seigneur. Donc, tout ça pour voir que ces points-là nous assurent que, oui, notre connaissance, elle est bien fondée sur le Seigneur. Elle n'est pas fondée sur un truc comme ça, flottant, dérivant. Non, c'est une œuvre de transformation dans nos existences. Et puis, on va grandir à l'image du Seigneur. Alors, je ne sais pas s'il y a des remarques jusqu'ici, parce qu'après, on n'en ira pas tellement plus loin pour ce soir.
Ce qui est encourageant de voir, c'est que finalement, la vie chrétienne, c'est une progression. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de connaître, d'avoir la connaissance. Et puis c'est aussi un exercice de tous les jours, quoi, effectivement, pour parvenir à toutes ces qualités-là, disons, de qualité de morale due à la foi. C'est vrai que c'est important, cette question de... on dit, ouais, j'ai la foi, mais il y a tout le reste. Hein,
la foi en quoi?
Ouais, d'accord.
En qui?
Ouais. Ouais, mais même la foi en Jésus.
Parce qu'on entend beaucoup, j'ai la foi.
Ouais, ouais, c'est
clair. Tout autour de nous, j'ai la foi.
Ou bien j'ai pas la foi.
Ouais, ou bien j'ai perdu la foi.
Ouais. Ouais, c'est une progression.
Il a cru en quoi? Je crois plus.
On est toujours à l'école. Mais on doit quand même acquérir certaines choses au fur et à mesure de la progression qu'on devrait avoir aussi dans ce chemin.
Amen.
Ce chemin de foi.
Voilà, tout un programme. Hein. Quelque part aussi, c'est aussi pour notre bien. On n'est pas appelé simplement à rechercher une expérience spirituelle, mais chercher vraiment à ce que Dieu puisse transformer nos vies et notre manière de penser et d'agir. Et c'est un sacré défi, hein, parce que notre vieille nature, elle est encore là. Il ne faut pas croire qu'elle est terminée. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et puis, nous peut nous reprendre aussi, hein, et puis transforme nos vies jour après jour. Hein. On ne doit pas faire de la grâce de Dieu un oreiller de paresse. La grâce de Dieu, elle est transformatrice dans nos vies. Elle va pas nous laisser comme ça les bras croisés par rapport à la sanctification. Parce que comme il écrit, hein, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On a besoin de marcher sur ce chemin-là. Puis quelque part, il n'y a pas d'autre chemin. Parce qu'autrement, au bout d'un moment, ben, voilà, on va se relâcher, et puis tout devient grâce. Et puis pour finir, vous avez une vie qui n'est pas différente de quelqu'un qui ne croit pas. Parce que vous avez les mêmes pratiques que le monde.
Justement, je suis allée au Portugal avec Rosa la semaine passée, et chez une amie, et cette amie, elle est candidat, elle est très ancrée dans le catholicisme, mais elle est dans la recherche. Hein. Elle dit, j'ai la foi, je prie tous les jours, je lis ma Bible, mais je ne comprends rien. J'allais de temps en temps à l'église du village catholique, mais je ne vais plus parce que c'est toutes ces femmes qui parlent sur les autres, qui se regardent les uns et les autres, qui font des messes, qui font ceci, mais qui se comportent très mal. Et je ne sais pas comment on est venu dans cette discussion. Et mon amie disait, oui, mais tous ces catholiques à l'église, ils ont la foi. Ouais, et moi, j'ai répété, mais ils n'ont pas la connaissance. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Et après, Rosa disait, Mais il ne faut pas les juger. Ils ont la foi, mais ils n'ont pas la connaissance, mais ils seront sauvés. Alors, je regarde Rosa et je dis... Et mon ami Candida a dit, oh, bah, alors à quoi ça sert d'avoir la connaissance? S'il suffit d'avoir la foi et on est sauvé. Et je disais à Rosa, mais Rosa, la foi et la connaissance vont ensemble. Mmh. Oui, mais ces catholiques, ils vont quand même à l'église, ils ont la foi, etc. Il ne faut pas les juger, c'est Dieu qui va les juger. Hein, j'ai dit, moi, j'ai l'impression qu'ils sont déjà jugés pour moi. Alors voilà, donc c'est la question. Est-ce que pour tous ces catholiques qui vont à l'église et qui font du mal, entre guillemets, et qui ne se comportent pas comme tu viens de le dire, mais parce qu'ils ont la foi, est-ce qu'ils sont sauvés?
Mais la foi en quoi?
Ouais, alors bon, alors grande question. Hein.
La foi dans les prêtres, la foi dans le pape, la foi... Est-ce que la foi en Dieu, c'est pas la même chose, c'est pas la même foi?
Voilà, mais c'est ça ce que j'ai dit.
Pardon, j'ai pas compris, Anna. Vous
la foi dans les saints, parce que je me souviens, la personne qui était chez moi, elle parlait, mais elle parlait souvent des saints. Voilà. Alors, ils ont la foi dans les saints, alors c'est pas la foi en Jésus.
C'est ce que je disais. Je disais votre Ave Maria, le saint machin, le saint. Oui. Et Rosa, elle disait, ouais, mais il faut pas juger parce qu'ils ont pas la connaissance. J'ai dit, mais attends, mais Rosa, t'es évangélique, toi, t'es comme moi. Oui, mais ils ont pas la connaissance, il faut pas les juger.
Oui, mais ils veulent pas la raison quand même, parce qu'il faut quand même, il faut pas juger, parce qu'il y a des personnes catholiques qui sont pieuses et qui ont la connaissance qu'on a nous. C'est clair qu'il y a des déviances, il y a des choses qu'on ne peut pas partager, comme justement la vénération des saints ou des choses comme ça, ou tout ça. Mm-hmm. Mais ça n'empêche qu'il y a des catholiques qui en remontreraient à nous tous, par rapport à leur piété, par rapport à leur foi, mais en Jésus-Christ. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas cataloguer comme ça, oui, puis de dire que nous, les évangéliques, on est meilleurs que les autres.
Nous, on parlait plutôt de notre amie Candida, elle est pour les saints, pour les Ave Maria, pour payer le curé pour faire la messe à sa maman qui est décédée il y a des années.
Ils sont rentrés de nouveau dans ces choses-là.
Ouais, c'est 20 euros. Voilà. Il faut que j'aille donner 20 euros au curé pour qu'il fasse la messe à ma mère.
Mais ils sont nouveaux là-dedans.
Ouais, ils sont nouveaux là-dedans.
C'est des indulgences, voilà. Hein, du Moyen-Âge. C'est incroyable. Hein. C'est comme au Moyen-Âge, en fait. Hein.
C'est ce contexte-là que moi je dis, de bon, ne pas
dépend,
juger.
Ça dépend, je pense, là tu parles du Portugal, ils sont peut-être encore un peu dans l'obscurantisme, mais le catholicisme, c'est plus ça forcément. Hein.
Ouais, tout à fait.
Il faut faire attention. Hein.
Il y a de tout, hein, je veux dire, mais c'est comme dans chaque milieu chrétien, il y a de tout. Hein. Et puis,
Y a des gens qui sont illuminés, on prend toujours, moi je prends toujours l'exemple de ce jeune champion du monde de grimpe, là, qui est valaisan, là, un jeune de 35 ans, je ne sais pas combien. Il avait la gloire, je veux dire, absolue. Mm-hmm. Là, c'est un des meilleurs du monde au niveau de grimper des parois extraordinaires. Et bien, tout à coup, il y a eu un flash dans sa vie où vraiment, il s'est converti vraiment. Et puis, il sert le vrai Dieu, Jésus-Christ, etc., dans la religion catholique. Mais c'est un homme qui a eu un volte-face dans sa vie extraordinaire. Et pour lui, il n'y a plus que ça, Jésus qui compte, il n'y a plus que ça. Il consacre sa vie complètement à ça. Donc, il ne faut pas juger, il faut faire attention de ne pas juger. Parce qu'on ne veut pas être, nous, les seuls évangéliques au ciel. Hein. Faut pas se leurrer.
C'est ce que disait Jésus par rapport à cette moisson. Que voilà, y avait cette image, il y avait de la bonne semence, cette livrée qui poussait en même temps. Ouais. Et puis il disait, mais ça, c'est à la moisson que le tri va se faire.
Ouais, c'est pas à nous de le faire.
C'est pas à nous de le faire.
C'est Dieu qui le fait, le tri.
C'est ça.
C'est pas à nous.
Ouais.
C'est bien ni que Dieu. Ouais. C'est lui qui fait le tri, les anges de Dieu. Mais c'est pas les chrétiens qui font ce tri. Mais les chrétiens, maintenant, ils ont tendance à faire le tri tout de suite. Tu penses pas comme moi, t'es pas chrétien. Tu fais pas comme si. Ah, mais c'est ce qui règne aujourd'hui. Hein.
C'est vrai que ça, c'est un peu un danger. Comme les disciples du Seigneur qui avaient croisé d'autres disciples qui chassaient au nom de Jésus, puis qui les ont fait
avec moi, ben, ils sont pas contre moi.
Alors, de l'autre côté, c'est vrai que si sur un point ou sur un autre, on n'est pas du tout d'accord dans la doctrine, et puis que nous, on a quand même la conviction que notre enseignement est basé dans le Seigneur, ben, on ne va pas commencer à aller par 15 000 chemins, quoi. On ne va pas changer notre doctrine pour qu'on puisse être à nouveau accepté par le pape ou que sais-je, quoi. Voilà, hein, on va pas se mettre à vénérer les saints ou je sais pas quoi.
Puis la personne-là, comme j'avais dit, elle a touché à des choses occultes, puis elle s'est pas mis en ordre, elle peut rester dans la...
Ouais, ça c'est autre chose.
Oui, mais c'est cette personne-là, elle n'a jamais voulu, elle dit qu'elle a la foi tout, mais elle a touché des choses occultes, puis une fois que tu donnes la main, il te ramasse tout l'ennemi, hein, il ne veut pas prendre que le petit doigt, puis c'est tout. Alors tant qu'elle n'aura pas mis en ordre ces choses occultes, elle va continuer à croire à ses saints, elle continue à croire à tout ce qu'elle veut, puis elle ne croit pas avancer. C'est impossible. Combien de fois on a prié pour elle? Combien de fois elle est venue
prier? Ils disent chrétiens, ils vont lire le tarot. Moi, oui. J'avais une tante comme ça. Tout d'un coup, merci Seigneur, elle est venue à Jésus. Hein, voilà. Elle a lâché ses pratiques-là, elle a compris. Mais il y a des personnes qui sont dans une confusion aussi. Ouais.
Tant que tu n'abandonnes pas ces choses, t'as un frein. Il faut que les personnes te montrent, mais même quand on montre, ils ne veulent pas abandonner ces choses. Comment tu veux qu'elle avance?
C'est spirituel, hein?
C'est une guerre. Ouais, qui n'est pas des hommes, des femmes. Ouais. C'est une guerre derrière.
Mais elle ne fait plus, hein, ça.
Oui, mais elle l'a fait. Elle l'a touché. Ouais. Eh bien, ouais, est-ce qu'elle a demandé pardon?
Libérée,
mais, libérée, c'est ça. Le reste même qu'elle a abandonné, il y a quand même une gêne, un lien. C'est ça que j'entends. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être libéré, pas du tout, absolument pas. Mais si tu ne mets pas en ordre ces choses-là, c'est un frein. Tu ne peux pas accéder à avancer, voilà. C'est des boulets que tu traînes.
Il y a bien des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, alors il y a dit, oh, lui, il travaille dans l'agriculture, un salutiste. C'est lui qui composait ses chants. Il était à la guitare, il chantait avec sa femme, il faisait chanter le monde, il racontait. Mais pour moi, c'était un dieu. Tout d'un coup, 15 ans après, il vient vers moi, Moudon, viens voir, je vais te dire quelque chose. Ouais, c'est grave. Viens vite. Un salut, puis qui venait chanter dans les villages. J'ai tapé ma femme.
Ben oui, ça c'est le
comportement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a déraillé? Bon, j'ai prié, j'y croyais pas.
Ouais, mais bon,
c'est pour ça que moi je viens là pour écouter, parce que je me dis, on n'est jamais au top niveau.
Non, non.
Et puis qu'est-ce que j'ai eu?
Bien si bonne. Si tu as demandé, c'est qu'il avait des remords.
Il était sincère. Hein.
Il était sincère, puisqu'il t'avait demandé d'aller.
Mais alors, moi, ça m'a...
C'est l'Esprit Saint qui travaille, hein. Mm-hmm.
C'est comme si ma femme donne une gifle. Je dis, alors là...
Voilà, hein. C'est clair que nul n'est à l'abri. Que celui qui pense être debout prenne garde
de ne pas tomber.
Hein. On n'est pas à l'abri. On a besoin de la grâce du Seigneur jour après jour. Hein. Mm-hmm.
Ouais. Puis comment je vais m'aider de temps en temps, mais très léger.
Mais après, on terminera.
Un autre facteur d'orgue, et puis il va bien beaucoup travailler dans les orgues, dans les églises catholiques. J'ai rencontré des sacrées personnes.
Ah oui.
C'est pour ça que je me reviens. Je dis, je me tournais catholique. Mais je disais, dis donc.
Mais il y a partout des.
Mais oui.
Bon, alors, je stoppe l'enregistrement là, ça joue. Clic.